Donc je m'arrête à « mettez comme interdite hein. ». Très bien, impeccable.
France Culture.
Et je lis la première page. Enfin, les deux premières pages, quoi.
Le book club.
À chaque fois, il y a des sons. En gros, il y a des archives qui vont nous permettre d'aller vers la lecture.
Ok, des gens qui brûlent sur des bûchers.
Non.
Enfin, quoi que...
Dans la bibliothèque de Babix.
Et alors, Arthaud, je commence d'où déjà? Je me souviens.
Alors, je ne sais pas.
Alors, ceci dit, De Pest, là, je l'ai sous les yeux, donc ça va.
Ça, c'est bien. Comme ça, c'est pas détaché.
C'est parfait.
Marie Richeux.
On peut fabriquer une maison avec du son. On peut imaginer que telle suite de notes, tel toucher au piano soit un véritable endroit pour vivre, pour revenir, pour se blottir. Un endroit d'où partir aussi. Cela, vous le suggérez depuis longtemps avec votre musique, Babix, peut-être plus clairement dans le dernier disque paru où il n'y a en apparence que du piano. Ici, nous faisons l'hypothèse qu'une pile de livres, quelques titres auxquels on tient, des couvertures qui sont familières, le nom de certaines autrices, de certains auteurs, peuvent faire ce sentir chez soi. Un chez soi de langage et de papier, un chez soi de mots des autres, un chez soi chez les autres. Alors on vous a demandé à vous, qui avez consacré il y a quelques années un disque entier à des poètes, vous qui avez toujours raconté une sorte de proximité avec la littérature, on vous a demandé de nous parler de votre bibliothèque en imaginant qu'elle n'était jamais loin de ce grand piano, orque noir, repère des gestes les plus quotidiens, les plus intimes et aussi les plus ancestraux. Merci beaucoup d'avoir accepté cette demande, Babix.
Merci à vous.
Alors, bon, là, on a une sorte de micro-bibliothèque portative, puisque c'est vous qui avez apporté vos rayonnages littéraires dans notre studio. Elle ressemble à quoi, en vrai, votre bibliothèque?
Eh bien, c'est un immense bazar, qui en plus, c'est une bibliothèque collective, parce que nous sommes deux à vivre dans la maison, et enfin, trois même maintenant, qu'il y a les livres de ma fille. Et donc, c'est une bibliothèque qui, d'un côté, est très rangée parce que ma compagne est fille de libraire, donc elle compartimente très bien les choses. moi, je suis complètement foutraque et il y a une grande pile qui s'entasse de plus en plus de bouquins que j'ai achetés et que je n'ai toujours pas lus. Ça, c'est une de mes grandes spécialités. J'ai besoin d'acheter plein de livres que finalement, je lis pas forcément.
Et voilà. Quoi comme rôle alors? Ce que vous avez, ils sont juste là, ils diffusent quelque chose ou c'est un rendez-vous pour plus tard?
Ah bah c'est un rendez-vous pour plus tard, bien entendu, mais un plus tard qui s'entasse en fait. Et voilà aussi des livres anciens que je n'ai aussi. Il y a beaucoup plus de livres que j'ai pas lus dans ma vie que de livres que j'ai lus. Et voilà. Et puis il y a plein de livres de sociologie, il y a des bouquins de cuisine aussi parce que je m'intéresse beaucoup. Par exemple ceux-là, j'en achète plein, je les lis jamais non plus. C'est formidable. Voilà. Il y a des livres qui me regardent aussi très intensément, comme ceux de Georges Didier Huberman. Par exemple, je rêve de rentrer totalement dans l'âme de ce monsieur, mais il y a tellement de bouquins de lui à lire que je ne sais pas exactement par où commencer. Enfin bon, voilà. Non, mais il y a beaucoup de livres, par contre.
Mais donc, vous achetez souvent beaucoup des livres, régulièrement?
Ouais, très régulièrement, ouais.
En librairie?
Ah oui.
Quand vous parlez d'une bibliothèque partagée, ça veut dire que tous les rayonnages sont véritablement partagés ou qu'il y a quand même un peu chacun son coin? Plutôt chacun son coin, si on
de moins en moins. Le temps passant, les rayonnages sont assez partagés, ouais.
Est-ce que ça veut dire que vous allez aussi piocher dans la bibliothèque de la personne avec qui vous vivez?
Oh bah complètement, ouais. Ouais, ouais. Heureusement, parce qu'elle est beaucoup plus sérieuse que moi par rapport à la lecture. En tout cas, elle lit très très régulièrement, ce qui n'est pas mon cas. Et par contre, elle me fait tout le temps découvrir des tas de choses. Donc j'ai découvert des tas de choses. Par exemple, Hélène Bessette, on se parlait tout à l'heure, vous m'avez fait remarquer que dans ma sélection, il n'y avait pas de femme et je m'en excuse terriblement.
Il n'y a pas de problème, mais, je vous faisais juste remarquer.
Non, mais je pas auprès de vous, auprès des autrices que je n'ai pas citées, mais... Et donc j'ai découvert très récemment une autrice sublime qui s'appelle Hélène Bessette, contemporaine de Marguerite Duras, qui n'a pas eu le même rayonnement, mais qui le mériterait.
Est-ce que vous vous souvenez où est-ce que vous avez appris à lire?
Oui, très bien. J'ai appris grâce à mes deux grands-mères. Et ma grand-mère maternelle me lisait tout le temps Prévert et Le Petit Prince. Et donc ça, c'est les deux livres avec lesquels j'ai appris à lire. Et mon autre grand-mère m'apprenait à lire dans la rue tout ce qu'il y avait. Donc tous les panneaux, tous les... Voilà. Et je crois que ça définit assez bien mon rapport à la lecture. C'est-à-dire que la lecture, pour moi, elle n'est pas nécessairement dans les livres. Elle est assez permanente, mais pas forcément dans les livres. Mmh. Et donc, ça m'intéresse autant de lire le nom des enseignes qu'un livre, en fait.
Est-ce que vous étiez un enfant lecteur?
Énormément. J'ai énormément lu jusqu'à mes 20 ans. Et après, petit à petit, ça s'est un petit peu désagrégé, pas parce que j'aime moins les livres, mais parce que déjà je me suis mis à travailler. Et je crois que comme je passe déjà beaucoup de temps dans des espèces de mondes un peu flottants, imaginaires, et que je travaille quand même beaucoup, quand ça s'arrête, j'ai envie de quelque chose de très réel. Et j'ai pas forcément envie de re-rentrer dans l'espèce de labyrinthe d'imaginaire. Et en plus, comme j'aime énormément lire, j'ai besoin de temps pour ça. Donc c'est pour ça que les vacances, quand j'en ai, sont vachement consacrées à ça. Et c'est là que je fais des énormes stocks de bouquins. Et voilà, j'ai jamais le temps de lire tous les bouquins que j'achète parce que j'ai les yeux beaucoup plus gros que le ventre. Et donc je pars avec 15 bouquins en vacances. Et évidemment, j'en lis que 3 ou 4. Et voilà, mais c'est déjà bien.
Il se passe quoi entre 0 et 20 ans? Vous lisez quoi? Enfant, vous lisez quoi? Alors, comment, enfant, une fois que voilà, vous pouvez lire seul et que vous pouvez lire vous-même les livres?
Un auteur, et c'est marrant parce que j'ai entendu que vous en parliez récemment avec un de vos invités, mais un auteur qui a vraiment bâti mon enfance, c'est Roald Dahl. J'étais persuadé que j'allais le rencontrer. C'était vraiment l'homme de ma vie, quoi. Et un jour, mon père, qui avait écrit des livres et qui était publié chez Gallimard, Découverte, m'a dit, mais peut-être que je pourrais te le faire rencontrer. Et moi, c'était pour moi la plus grande joie du monde, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il venait de me proposer de rencontrer un mort, en fait. Et là, j'ai réalisé qu'il était mort, et ça a été un chagrin immense. Ensuite, Prévert, ça m'a suivi assez longtemps.
Donc, par votre grand-mère maternelle.
Ouais, tout à fait. Et puis après, je lorgnais énormément sur les bouquins de mes parents. Ça, très vite, j'ai compris qu'il y avait une littérature pour enfants, et ça me vexait un peu qu'on me considère comme un enfant, en fait. Et donc, je me souviens faire des acrobaties sur des escabeaux ou des trucs pour essayer de choper des livres de mes parents. Il y en avait un, je me souviens, qui m'observait, ou que j'observais, mais qui était au-delà de cette limite, « Votre ticket n'est plus valable » de Romain Gary. Je trouvais ce titre complètement dingue, et un jour, je me suis décidé à l'attraper pour découvrir qu'en fait ça parle de l'impuissance d'un homme en fin de vie, et que j'étais peut-être un peu petit effectivement pour comprendre réellement de quoi il en comptait, quoi.
On vous en proposait des livres, ou il fallait toujours aller les chercher avec l'escabeau?
Non, on m'en donnait, mais j'en réclamais souvent. En fait, c'était vraiment
une pratique d'échange avec vos parents.
Ouais, avec mes parents, avec mes oncles, mes tantes. Je suis entouré de gens qui lisent beaucoup, et donc il y avait ce geste quand même qui et où en plus, avec, je sais pas si c'est partout pareil chez les familles de gens qui lisent, mais il y a une espèce de d'émulation, mais limite de concours un peu aussi, de celui qui... Enfin, je me trouvais toujours un peu à la traîne de mes parents, de mes sœurs, de machin, donc il fallait toujours que je lise, quoi, fallait pour en être, quoi.
Quand vous êtes adolescent, vous lisez quoi?
Ah bah là, je suis tombé sur Arthur Rimbaud, la poésie, beaucoup. C'est là que mon appétence pour les romans a commencé un tout petit peu à baisser, parce que je me suis engouffré dans ces formes plus courte, moins narrative, où il n'était pas question de raconter quelque chose. Et donc, la rencontre avec Rimbaud, ça a été quelque chose d'assez assez marquant.
Et après? Ah, donc ça veut dire que vraiment, âge adulte, début de l'âge adulte, vous arrêtez la lecture?
Non, j'arrête pas, mais...
C'est plus rare.
Ouais, c'est plus rare, et je me contente plus de la poésie, vraiment. Je reviens au roman, là, ces derniers temps, un petit peu plus, et après, je me suis mis à beaucoup lire, mais d'autres choses, beaucoup la presse, beaucoup des bouquins de sociologie, de choses plus concrètes, de choses qui racontent des choses un peu plus concrètes que l'imaginaire des gens. Non pas qu'ils m'intéressent pas, mais c'est comme j'étais moi-même submergé par mon propre imaginaire. Encore une fois, j'avais pas envie de passer ma vie dans l'imaginaire, et que j'avais besoin de retourner à des choses un peu plus concrètes, quoi.
Est-ce que vous avez une table de chevet?
Oui.
Est-ce qu'il y a des livres dessus en ce moment?
Alors en fait, ma table de chevet a disparu depuis quelque temps pour des raisons de... bref.
De table de chevet.
De table de chevet, quoi. Voilà.
Les tables de chevet ont leur vie.
Exactement. Et donc parfois. En ce moment, non. En ce moment, je n'ai pas de table de chevet, donc forcément, il n'y a pas de livre dessus.
Est-ce qu'il y a un livre qui vous attend, Babix? Vous parliez tout à l'heure de toute l'œuvre de Georges Duberman, donc ça c'est un gros morceau qui vous attendrait.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a un autre comme ça dont vous imaginez que voilà, ce serait une sorte de rendez-vous?
Mais il y en a tellement. En fait, j'ai tellement accumulé de lacunes en littérature que il y en a 10 000 qui m'attendent et que j'entasse des espèces de désirs d'accéder à certaines œuvres que j'ai toujours pas ouvertes. Par exemple, dans la littérature américaine, Faulkner, j'ai vraiment envie d'y aller et il y a quelque chose d'un peu intimidant de pousser cette porte parce que voilà, c'est sans fin, quoi. Philip Ross aussi, beaucoup. Bon, non, en fait, si je commence à les citer, en fait. Non, mais.
Et ils sont là, ils sont chez
vous. Bien
sûr,
ils sont là, ouais, bien sûr. Et puis, j'entends tous ces littéraires autour de moi qui en parlent, et donc je suis là, ah, ils m'énervent. Parce que eux l'ont lu. Mais voilà. Et en plus, j'ai décidé, je me suis vraiment promis, il y a quelques temps, d'arrêter de faire semblant d'avoir lu des trucs que j'ai pas lus, et de vivre avec. J'ai toujours été une sorte de cancre, et ça reste.
Vous avez consacré, il y a quelques années, je le disais en introduction, un disque à des poètes, à de la poésie. C'était un geste qui avait été remarqué à l'époque parce que ça vous faisait sortir de votre propre écriture, mais il y avait quand même quelque chose qui était comme un hommage. Est-ce que aujourd'hui vous regardez ce disque, ou comment vous le regardez?
Je le regarde avec beaucoup d'amour parce que ça a été le premier disque déjà que j'ai entrepris avec mon label Bison Bison, que c'était un disque qui, je pense, marquait clairement ce que artistiquement j'avais envie de défendre. Enfin voilà, je sais pas avec quoi, mais en tout cas avec c'était ce que c'était. C'était un disque que la maison de disques avec laquelle j'étais avant a regardé vraiment de haut comme si c'était une idée complètement absurde, et ça m'a fâché en fait qu'on regarde ces textes-là qui me paraissent si importants de les faire vivre. Donc en tout cas, ça m'a réveillé aussi de quelque chose dans lequel j'avais plus envie d'être. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un volume 2 qui arrivera dans pas si longtemps que ça en fait, qui sera autour de poètes pour le coup totalement contemporains. Et je commence à y réfléchir et je commence à y penser. J'en ai parlé à mon camarade James Noel, dont je vais vous lire quelques extraits tout à l'heure, qui va, je pense, me conseiller aussi, parce que en poésie contemporaine, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui écrivent en ce moment que je suis tombé très amoureux de la poésie haïtienne et des Caraïbes en général. Et James a fait le premier livre de l'anthologie de la poésie haïtienne, donc il a des tas de choses à me conseiller, quoi.
C'est marrant parce que vous vous présentez comme un cancre et moi, en introduction, je vous ai présenté comme quelqu'un qui a toujours raconté une très grande proximité à la littérature.
Oui, mais en fait, elle est là, elle est complètement là, mais j'ai pas l'assiduité des grands lecteurs. Voilà. C'est-à-dire que... Mais en réalité, si je regarde, j'ai pas une consommation excessive de culture, en fait. C'est-à-dire que j'écoute pas non plus de la musique toute la journée. J'ai des rendez-vous importants avec la musique. Quand j'en écoute, je suis totalement plongé là-dedans. En fait, je sais ce que ça peut déplacer chez moi, et je peux pas déplacer tous les jours tout. Donc je me
conseille. Pareil pour les livres, du coup.
Pareil pour les livres, pareil pour le dessin. Par exemple, je dessine beaucoup. C'est vraiment une de mes grandes passions dans la vie. Mais je peux ne pas dessiner pendant 2 ans, et tout à coup, je sais que le jour où je m'y remets, il y a plus rien d'autre qui existe. Donc, j'essaie de gérer ces espèces d'exclusivité, de manière à ce que ça engloutisse pas tout, et notamment le fait que je dois travailler, quoi.
All right.
Comme à chacune des personnes dont on visite la bibliothèque, Babix, on vous a demandé de choisir dans ce bazar que vous décrivez au début d'émission, des textes, peut-être pour avoir une sorte de parcours dans la bibliothèque. Il se trouve où le recueil des illuminations de Rimbaud dans votre bibliothèque ?
Bah, je l'ai acheté tellement de fois qu'il se trouve à plein d'endroits différents. Ah ouais. J'ai toujours peur de le perdre. J'ai toujours, j'ai un rapport un peu fétiche avec ce livre-là. Par contre, ce qui me désole, c'est que j'ai vraiment perdu mon premier exemplaire de ça. Je me souviens très très bien. C'était un exemplaire à 3 euros avec une couverture bleue et j'y tenais vraiment beaucoup à celui-là. Et je sais pas ce que j'en ai fait. Et Arthur Rimbaud, bah l'autre fois, puisque je suis venu de Montpellier où j'habite, il fallait que je le retrouve et j'avais peur de l'avoir perdu. Et en fait, en regardant dans ma bibliothèque, j'ai vu qu'il y avait au moins 3 exemplaires. Donc je suis pas prêt de le perdre.
Bon, c'est bon signe. Donc vous avez choisi de lire le poème des illuminations.
Ouais.
Comment vous avez choisi ?
Bah, c'est très simple, j'étais dans le métro ce matin. Moi je crois vraiment dur comme fer aux oracles de la première page qu'on ouvre dans un bouquin de poésie particulièrement. Et donc j'attends souvent quelque chose, un peu comme une cartomancière de la page qui va s'ouvrir. Et qu'est-ce que ça va me dire, soit d'aujourd'hui, soit de la vie, soit de... Et donc là, je suis tombé sur ce 4e poème des Illuminations.
Vous lisez ?
Allez. Je suis le saint, en prière sur la terrasse, comme les bêtes pacifiques paissent jusqu'à la mer de Palestine. Je suis le savant au fauteuil sombre, les branches et la pluie se jettent à la croisée de la bibliothèque. Je suis le piéton de la grande route, par les bois nains, la rumeur des écluses couvre mes pas. Je vois longtemps la mélancolique lessive d'or du couchant. Je serai bien l'enfant abandonné sur la jetée, parti à la haute mer, le petit valet, suivant l'allée dont le front touche le ciel. Les sentiers sont âpres, les monticules se couvrent de genêts, l'air est immobile, que les oiseaux et les sources sont loin. Ce ne peut être que la fin du monde, en avançant.
Qu'est-ce qui vous a raconté ce poème ce matin ? Quel oracle ?
Bah écoutez, quand même, tomber
présence
sur...
Présence de la bibliothèque et de la Palestine, déjà ?
Bah ouais, voilà quoi. Déjà, c'est tout à coup, ce paysage de paix qui décrit la Palestine, quoi. Ça paraît très très loin aujourd'hui. Et puis, il y a quelque chose... Chez Rimbaud, je crois que j'ai autant aimé à une époque la hargne, la cruauté absolue, et aussi, et c'est ce qu'on entend plus dans les écrits qui surviennent un peu plus tard que les poèmes, l'espèce de douceur et d'enfant un peu brisé qu'il est, quoi, qu'on voit déjà dans les premiers poèmes, mais qui cache avec énormément de... avec son espèce d'attitude de punk qui hurle sur tout le monde. Et là, je trouve qu'il y a déjà quelque chose qui lâche et qui s'abandonne à une espèce de douceur, à quelque chose d'assez... qui me touche beaucoup, quoi. Et là, je serais bien l'enfant abandonné sur la jetée partie à la haute mer. Enfin, c'est tellement beau, quoi. Donc voilà, ça m'a raconté ça.
Vous lisez Rimbaud différemment. Tout à l'heure, vous dites que... Vous disiez que vous avez découvert ça, vous êtes plutôt jeune adolescent, enfin ouais. Qu'il y a quelque chose qui s'ouvre très fort avec la poésie de Rimbaud. Vous n'êtes plus tout à fait jeune adolescent.
Ben oui.
Qu'est-ce qui change dans votre rapport à ces poèmes-là, à ces textes-là ?
Bah justement, je pense que j'ai plus une telle appétence pour cette espèce d'humeur si violente en fait. Enfin moi, je crois que Rimbaud, j'ai aimé follement l'espèce de violence qu'il y avait en lui. Mais qui rendait très 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 belle. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas besoin, enfin je me sens moins dans cette énergie là et je suis moins sensible à ça. Après quand au départ j'avais choisi un autre poème qui le poème Les Assis, où alors là il hurle quoi vraiment dans ce poème. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas forcément ça aujourd'hui que j'avais envie de lire de Rimbaud. Et voilà, donc j'ai réouvert parce que j'avais ce petit doute quand même ce matin en prenant le métro. Et donc j'ai ouvert ce livre et je suis tombé là-dessus. Et alors c'est d'ailleurs étrange parce que dans le disque que vous évoquiez sorti avec la maîtrise de l'opéra comique.
C'est ce qu'on vient d'entendre, hein, pas le disque des poètes dont on parlait tout à l'heure, sorti sur le label Bison Bison, mais bien ce qu'on vient d'entendre là, c'est-à-dire La Marche des Enfants.
La Marche des Enfants, ouais. Et on a sorti un premier titre qui s'appelle The Little Boy Lost, et juste à ce moment-là, Rimbaud vient me le rappeler au cas où j'aurais oublié, qui serait bien l'enfant abandonné sur la jetée. Enfin voilà, il est quand même très très beau. Et puis j'adore la simplicité de... on sent vraiment qu'il est arrivé à une sorte d'épure... des phrases aussi simples que l'air est immobile, point. Ça, avant, il ne le faisait pas. Et je trouve ça magnifique.
Sans comparaison qui serait vraiment très, très, très malaisante, mais est-ce que vous avez l'impression que cette simplicité-là, ou ce trait-là, vous l'atteignez vous aussi en musique, ou vous cheminez vers ça en musique? Est-ce que maintenant, vous pouvez dire en musique l'air est immobile, point?
Alors, le pire, je crois, c'est que je l'ai dit déjà, sans savoir que lui... Non, dans une chanson, je dis le vent est immobile. Alors, sans comparaison, qui serait très, très malaisante, effectivement.
Non, mais c'est juste qu'on parle de chemin dans la création.
Complètement, je chemine complètement vers ça. J'essaye, en tout cas, maintenant, d'enlever vraiment tout ce qui me semble superflu, en trop, excessif... ou alors il faut que ce soit un excès qui est vraiment une valeur d'honnêteté en fait. Je veux bien être excessif si c'est vraiment ce que je suis à ce moment-là, mais en fait je crois que je suis moins volontaire, tout simplement.
On va entendre une archive de James Noël, vous en parliez tout à l'heure, il s'exprime en 2017, il vient de publier à ce moment-là Belle Merveille, et il parle précisément du texte.
Je ne cherche pas naturellement la poésie chez les poètes qui écrivent... des poèmes. Pour moi, on est plus poète par le regard que par écrit. On peut ne pas savoir lire et être poète. Et pour moi, avant tout, c'est d'aller vers le poème. Écrire Belle Merveille, pour moi, c'est aller davantage vers le poème, vers ce que j'entends par la beauté, quelque chose est à peine accessible. Et quand on réussit justement à se rapprocher... de tout ça. Après, on ose signer.
Mais il signe. Belle Merveille, James Noël, c'était paru en 2017, en septembre 2017, aux éditions Zulma. Ça fait partie des livres que vous avez envie de lire, Babix, pour déballer votre bibliothèque. Mmh. Ici, il s'exprime pour le site En attendant Nado. Il parle pas tant d'écrire des poèmes que d'aller vers le poème, que d'aller vers la beauté.
C'est magnifique. Oui, James Noël, c'est un auteur... haïtien qui a une quarantaine d'années, je crois qu'on n'est pas si éloigné en âge, que j'ai rencontré, si ma mémoire est bonne, une soirée qu'il organisait avec sa revue Intranquillité à la Maison de la Poésie, et qui a quelque chose de très rimbaldien intact, quoi. Parce que en plus, lui, venant d'Haïti, je crois que je me trompe pas en disant qu'il venait absolument pas de la grande bourgeoisie haïtienne, voire tout au contraire. C'est un chemin bien différent que le nôtre, que celui de devenir poète, écrivain, dans le sens où les poètes haïtiens, moi, m'ont beaucoup plus fait penser aux rappeurs ici que à l'image qu'on a un peu du poète, quoi. C'est des gens qui ont quand même le quotidien et les deux pieds ancrés dans une réalité qui est très complexe et quelque part qui, je trouve, redonne tout leur sens, tout son sens à la poésie, de par la manière dont elle extrait du quotidien, de la vie quotidienne. Et James, voilà, j'ai découvert ses poèmes d'abord, j'ai découvert après, il a écrit des recueils de poèmes absolument magnifiques, comme Le sang visible du vitrier. Il a créé cette anthologie de la poésie haïtienne. Il est très actif, quoi. Il est très, c'est une sorte de militant de la poésie. Et là, on s'est retrouvé très récemment pour une lecture, et c'était magnifique. Il a lu des nouveaux textes. C'est absolument splendide ce qu'il écrit. Et Belle Merveille, c'était son premier roman, qui pour moi est plus un long poème que vraiment un roman tel qu'on l'imagine.
Il s'agit de quoi?
Il s'agit d'un homme qui vient de subir le tremblement de terre à Haïti et qui tombe follement amoureux d'une jeune femme qui fait partie d'une ONG, un personnage qu'il appelle Amore. Et c'est comment, au milieu des décombres et de la plus pure horreur naît une histoire d'amour. Et ce qui est très beau, c'est que Belle Merveille, c'est une expression utilisée en Haïti pour décrire autant des choses magnifiques que des choses absolument terribles. Donc, par exemple, je sais pas quoi, je suis tombé amoureux, ah, Belle Merveille, ou il y a eu 100 000 morts, ah, Belle Merveille. Donc, c'est une espèce d'expression comme ça qui résume très bien son livre, parce que il est question autant de l'horreur des conséquences de cette tragédie
que de la possibilité de l'amour.
Exactement,
au lieu des
drames, voilà.
Tout vous à en fait. Lisez un extrait.
Ouais, avec plaisir. Il faut imaginer la voix de James Noel, qui a une sorte de stentor qui c'est vraiment le Pavarotti des poètes, quoi. La terre a tremblé à gauche, la terre a tremblé à droite. La ville a dégueulé toutes ses gammes. Elle est secouée dans ses entrailles. Sol, la, si, do. Je n'avais pas de mots quand ça tremblait. Je recevais la mort en musicien. Je fredonnais. Autour de moi, j'écoutais se fracasser l'univers. Ma ville recevait le coup en plein cœur. Elle bondissait et voltigeait dans tous les sens. Elle tremblait jusqu'au vertige avant de craquer comme une fille dans les bras d'un brigand. De la fumée partout, des gémissements déchirant la nuit, des appels à l'aide, des cris de secours partout. De la poussière partout, une poussière sans masque, une poussière poussive, charriant une méringue souterraine comme un char de carnaval. C'est à faire perdre la tête, ce nuage qui émane d'une ville qui se retourne à l'envers. Une poussière de soucoupe volante, une poussière de malade mental. La ville a tremblé en haut, la ville a tremblé en bas, toute seule, le corps tremblant durant 35 secondes, les flux montaient, la mer montait. C'est comme si la ville s'activait publiquement à s'envoyer en l'air. Quand la terre s'est mise à trembler, j'étais là. Do, ré, mi, fa, sol. Je menais encore ma petite musique. La terre tremblait. Moi, je fredonnais, comme pour me donner de l'air. L'air d'être là. Quand la manne du ciel est arrivée, je n'étais pas là pour recueillir le tiers d'une miette. Alors que les dons tombaient en avalanche, l'aide dite internationale m'était comme interdite.
Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ?
Pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Non, mais c'est magnifique. Par exemple, la manière dont il ponctue de notes de musique, comme si c'était juste... quand la terre tremblait, c'était un petit chantonnement juste de la terre, et comme si lui-même il n'était qu'un petit chantonnement au milieu de ses gravats. Enfin, il y a une grande délicatesse et en même temps aussi une espèce de cruauté comme ça, mais cruauté au sens vraiment de quelque chose de cru, quoi.
En vous écoutant, je pensais à ça. Je pensais à ce que vous dites souvent sur le petit chantonnement, justement, ouais. Sur le petit fredon, sur le fait que c'est une façon de raconter le plus précisément du monde notre vie, notre existence.
Oui.
Ça veut dire que parfois, ça vous arrive, Babix, de lire des textes et de retrouver comme ça des motifs. Où, bon, il se trouve que voilà, il y avait aussi l'avalanche. Enfin, je sais pas, il y a eu quelques mots comme ça où je me suis dit, ah tiens, peut-être c'est ça aussi des rencontres avec des textes. C'est quand on y reconnaît ses propres petits cailloux. C'est pas que ça.
Ouais,
il peut y avoir
sûr.
Des grands sentiments d'étrangeté et que ça fait une très belle rencontre. Mais là, en l'écoutant, j'entendais aussi ça.
Ouais, bah, complètement. Il y a une sorte de fraternité comme ça qui se crée de langue, de qu'est-ce qu'on va attraper comme est-ce qu'on va attraper les mêmes papillons ou pas, quoi, ou les petits cailloux. Ouais,
en c'est l'occurrence exactement ça. Un peu,
bah ouais, je crois.
Il n'était pas monté sur une scène depuis les Chenshi en 1935.
Artaud va faire une conférence. Il est 21h.
Celui, tête chaude, que je serai au pyrome de la tête aux pieds. Car la cocaïne est un mort. L'héroïne, un surhomme en or.
Toute la salle était dans un état d'émotion extraordinaire. Et puis, petit à petit, à un moment donné, il a vu un geste maladroit, je ne sais pas. Ses papiers se sont envolés. Il a perdu ses lunettes. Il s'est mis à genoux pour ramasser ses papiers. Mais naturellement, pas un rire dans la salle. Nous étions, n'est-ce pas, tous dans une angoisse extrême. Il y avait Audi Berti, Albert Camus, Gide, André Breton et beaucoup d'amis.
Maison de piano partagée avec Antonin Artaud.
Ah là là, quel...
Ça marche, non ?
Ouais, on pourra dire maintenant featuring ouais, Antonin.
C'est, c'est un morceau qui est donc voilà, sur ce disque où je disais qu'en apparence, il n'y avait que du piano parce qu'il est très peuplé d'autres choses, ce disque-là, je trouve, pour moi, Babix. On entendait la voix d'Antonin Artaud, voilà, dans une archive qui raconte cette conférence, avec plein de gens dans la salle et ces feuilles qui partent comme ça, qui s'envolent. Le théâtre et son double, ça fait partie des textes que vous avez eu envie de lire pour parler de votre bibliothèque. Mmh. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi ?
Ouais, ça a été un réel coup de foudre, pas au sens amoureux, mais vraiment comme si j'avais reçu la foudre de plein fouet. Et alors en plus, ça a été dans un contexte très étrange, parce que à cette époque-là, donc je devais avoir 18 ans, 19 ans, j'accompagnais un groupe de musiciens pakistanais, qui était au nombre de 12 ou 13. Et on m'avait fait porter la charge complètement folle, moi qui suis si foutraque, de les mener en tournée, de m'occuper de leur chambre d'hôtel, de machin, enfin voilà. Et donc je devais faire un voyage en train de Nice à Lorar en Allemagne, train couchette, j'étais entouré de ces musiciens en plus incroyables, et donc dans cette ambiance de train de nuit. Et j'avais pris, je m'intéressais un peu à Artaud à ce moment-là, mais je connaissais pas encore, et donc j'avais pris Le théâtre et son double. Et je savais pas du tout ce que j'allais ouvrir. Et alors là, déjà rien que l'introduction au théâtre et son double, j'ai réellement eu l'impression que quelqu'un m'avait inoculé une drogue extrêmement forte. Enfin, quelque chose dont on revient pas, en fait.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça bousculait ?
Je sais pas, c'est comme si on m'avait vraiment jeté un sort, quelque chose... Je saurais même pas expliquer, parce que c'est de l'ordre, et c'est d'ailleurs ce qu'il raconte dans l'introduction, mais c'est de l'ordre du cataclysme, en fait. C'est presque un événement d'une catastrophe naturelle, mais d'un cataclysme naturel. Donc c'est pas quelque chose qu'on explique et qu'on rationalise tant que ça. C'est que je pense qu'à ce moment-là, il y a quelque chose de cellulaire qui a changé en moi, réellement.
Est-ce que ça vaut aussi pour le rapport aux mots, puisqu'il est aussi question du rapport au langage? Du rapport au théâtre, évidemment, mais...
Oui, ça vaut pas... En fait, pas que les mots, je pense.
Pour que ça
a changé...
bouge en vous ? Ah non, pas que ça.
Non, ça a changé vraiment toute une vision de la vie, je pense. Ça m'a... En tout cas, je crois que je continue d'essayer de cheminer par rapport à ce qu'il raconte dans ce livre-là, parce qu'il prend bon, le théâtre comme soutien à son texte, mais en vérité, ça parle de... Évidemment, de toute œuvre d'art, de l'acte de création, mais en vérité, ça se pose aussi sur un acte de vivre, en fait. Donc oui, ça m'a fait un effet qui était... on ressort de ça, on est rené de quelque chose. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, quoi. Donc, voilà.
On en lit un extrait ? J'en profite pour resituer ça en disant qu'on est au milieu des années 30. Voilà,
c'est le texte. Et ça n'est que l'introduction, donc attention. Pour le théâtre, comme pour la culture, la question reste de nommer et de diriger des ombres. Et le théâtre, qui ne se fixe pas dans le langage et dans les formes, détruit par le fait les fausses ombres, mais prépare la voie à une autre naissance d'ombres autour desquelles s'agrège le vrai spectacle de la vie. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire le théâtre. Et l'important est de ne pas croire que cet acte doive demeurer sacré, c'est-à-dire réservé. Mais l'important est de croire que n'importe qui ne peut pas le faire et qu'il y faut une préparation. Ceci amène à rejeter les limitations habituelles de l'homme et des pouvoirs de l'homme et à rendre infinies les frontières de ce qu'on appelle la réalité. Il faut croire à un sens de la vie renouvelé par le théâtre et où l'homme, impavidement, se rend le maître de ce qui n'est pas encore et le fait naître. Et tout ce qui n'est pas né peut encore naître, pourvu que nous ne nous contentions pas de demeurer de simples organes d'enregistrement. Aussi bien, quand nous prononçons le mot de vie, faut-il entendre qu'il ne s'agit pas de la vie reconnue par le dehors des faits, mais de cette sorte de fragile et remuant foyer auquel ne touchent pas les formes. Et s'il est encore quelque chose d'infernal et de véritablement maudit dans ce temps, c'est de s'attarder artistiquement sur des formes au lieu d'être comme des suppliciés que l'on brûle et qui font des signes sur leur bûcher.
Mais vous, quand vous lisez ça, Babik, c'est que vous êtes donc tout jeune, vous avez donc à peine 20 ans, vous êtes concerné par l'idée de produire des formes, de réfléchir à l'art, de briser le langage, ça vous parle? Vous êtes animé par ces questions-là?
Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, ça commence à m'animer à partir de là, ça c'est sûr. Comment dire? Je pense qu'à l'époque où j'ai lu ça, j'ai absolument pas tout compris. Mais que, en revanche, il nous sommes dans ce texte-là de faire de l'acte de création, l'acte de quoi que ce soit, en fait, un moment d'incandescence absolue et irréversible. Et ça, par contre, je crois que ça m'a parlé très vite. J'avais été quand même un tout petit peu déjà briefé par Rimbaud, justement.
C'est ce que j'allais dire, la question de l'incandescence, d'une forme de radicalité dans le rapport à l'existence. Bon.
Voilà. Et ben, ça me parlait énormément.
Briefé par Rimbaud et rebriefé par Antonin Artaud.
Exactement. Mes coachs de vie.
Puisque vous parlez de l'acte de création, je vois le petit Novecento d'Alessandro Baricco. Dans mon souvenir, ça fait longtemps, mais il est quand même question de quelqu'un qui crée, quelqu'un qui joue, c'est un pianiste.
Oui. Tout à fait.
Ça fait partie des textes que vous vouliez, comme ça, porter dans votre bibliothèque. Est-ce que vous voulez nous dire pourquoi? Est-ce que vous êtes d'accord pour quitter Artaud et
aller
à
Baricco? Avec joie, parce que
ça
va nous faire du bien. Baricco, j'étais tombé très amoureux de ce livre, qui est un tout petit livre. J'aime bien les petits livres aussi, ça c'est super.
Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas justement ce truc des livres intimidants de 500 pages où on a... j'aime bien les gens qui... C'est un peu comme une chanson, quoi. Ça prend à peu près la même place. Et donc j'étais tombé très amoureux de ce livre-là. Quelque part, c'est un peu la version pour adultes du Petit Prince, d'une certaine manière. Enfin, ça fait appel aussi à des choses très délicates que j'adore, comme Charlie Chaplin... il y a cette forme-là de pas de candeur, mais de poésie qui peut autant parler à une enfant de 3 ans qu'à un adulte. Et ça, je trouve ça très beau. Et récemment, mon grand ami Grégory Dargent, en entendant justement mon disque de piano, m'a dit « Mais en fait, j'ai l'impression d'être dans Novecento, quoi. » Et ça m'a vachement... Alors ça m'a fait vraiment très très plaisir. Bon, vous comprendrez probablement pourquoi avec l'extrait que je vais lire, mais il y a cette idée de cet homme qui est sur un bateau, pour ceux qui l'ont pas lu, qui est né sur ce bateau, qui n'est jamais descendu de ce bateau, et qui, à travers les récits des gens qui passaient sur le bateau, était capable non seulement d'imaginer, mais de reconstituer dans les moindres détails des ambiances de ville, de lieux où il n'est jamais allé, mais par contre où, en fait, il y est allé d'une certaine manière.
Par les histoires.
Par l'écoute,
par sa capacité sensible.
Quoi. Exactement. Et c'est ça qu'il met dans son piano. C'est ça qu'il met dans la musique. Et finalement, alors ils le décrivent comme un incroyable virtuose, ce qui n'est pas du tout mon cas, mais par contre, dans cette approche-là, d'aller récupérer des récits des autres et tout à coup de les retransmettre, de les refaire vivre à travers ma musique, je m'y retrouve vachement.
Vous lisez un extrait ?
Avec plaisir.
C'est un texte de 1997. En tout cas, il est paru chez Mille et une Nuits en 1997 dans une traduction de Françoise Brun. C'est donc cette traduction que vous allez lire.
Un jour, j'ai demandé à Novecento à quoi diable il pensait quand il jouait. Et c'est qu'il regardait, les yeux toujours droits devant lui, où il s'en allait finalement, dans sa tête, pendant que ses mains se promenaient toutes seules sur les touches. Et il m'a répondu « Aujourd'hui, je suis allé dans un pays très beau. Les femmes avaient des cheveux parfumés, et il y avait de la lumière partout, et c'était plein de tigres. Il voyageait, quoi. Et chaque fois, il allait dans un endroit différent, en plein centre de Londres, dans un train au milieu de la campagne, sur une montagne si haute que la neige t'arrivait à la taille, ou dans la plus grande église du monde, à compter les colonnes et regarder les crucifix bien en face. Il voyageait. Le plus difficile à comprendre, c'était comment il pouvait savoir à quoi ça ressemblait, une église, et la neige, et les tigres. Et, je veux dire, il n'en était jamais descendu de ce bateau, pas une seule fois. C'était pas une blague, c'était absolument vrai. Jamais descendu, pas une fois. Et toutes ces choses-là, pourtant, c'était comme s'il les avait vues. Novecento, tu lui disais, une fois j'ai été à Paris, et il te demandait si tu avais vu les jardins de machin truc, ou si tu avais dîné à tel endroit. Il savait tout. Il te disait, ce que j'aime là-bas, c'est attendre le coucher du soleil en me baladant sur le pont neuf, et quand les péniches passent, m'arrêter, et le regarder d'en haut, et leur faire un signe de la main. Mais tu es déjà allé à Paris, Novecento? Non. Alors, c'est-à-dire si. Comment ça, si? Paris. Tu pouvais te dire qu'il était fou, mais ce n'était pas si simple. Quand un type te raconte avec une précision absolue quelle odeur il y a sur Bertham Street l'été, quand la nuit vient juste de s'arrêter, tu ne peux pas te dire qu'il est fou pour la seule et stupide raison qu'il n'est jamais allé sur Bertham Street. Lui, dans les yeux de quelqu'un, dans les paroles de quelqu'un, cet air-là, l'air de Bertham Street, il l'avait respiré, vraiment, à sa manière. Mais vraiment, le monde, il ne l'avait peut-être jamais vu, mais ça faisait 27 ans que le monde y passait sur ce bateau. Et ça faisait 27 ans que Novecento, sur ce bateau, le guettait et lui volait son âme.
Il a raison, Grégory Dargent, de dire qu'il y a quelque chose de commun entre cette façon de jouer du piano et la façon que vous avez dans ce dernier disque d'en jouer.
En tout cas, je ne sais pas s'il a raison, mais il n'a pas tort, en tout cas. Dans le sens où, particulièrement sur ce disque de piano, je pense qu'il est imprégné de tellement de gens, de tellement de choses, de tellement d'histoires, de tellement d'endroits, que finalement, oui, je me retrouve énormément là-dedans, et d'endroits d'ailleurs où je suis pas forcément allé. Et j'aime beaucoup ce que ça raconte aussi de... Finalement, on n'a pas besoin d'être forcément factuel et légitime à partir du moment où on fait appel à son imagination. On va où on veut. Et j'aime bien cette idée. J'aime bien cette idée qu'on peut être n'importe où, en fait.
Est-ce que vous aimez bien lire des textes, Babix, où il est question de musique?
Il semblerait, oui, parce que... Belle Merveille, quelque part, il est question de musique. Novecento aussi... Oui, je crois que oui. Quand c'est si joliment écrit, en tout cas, oui.
La poésie, c'est notre père qui arrive un soir sous une pluie torrentielle et qui nous chante une complainte qu'il a composée pour une petite cuillère en argent. Notre père voulait arrêter la pluie de septembre avec une petite cuillère et la pluie a retourné son esprit comme un vieux pantalon. La poésie, c'est un père haïtien qui perd la raison pour une petite cuillère mise en chanson sous une pluie qui pousse avec rage tout près de notre enfance.
Ces jours-là, je pris sur les admirateurs d'Adriana Siloé un avantage considérable. On confia à ma mère, modiste, fort appréciée au bel air, la création de la toilette nuptiale. De l'avant-jour jusqu'au soir, ses ciseaux et sa machine singée, chantaient dans le tissu les charmes de la jeune fille. La maison de l'oncle Féfé voguait avec nous, dans un nuage impressionnant de tulle et de soie, parmi les flots de dentelle et d'organdi. La robe de mariée, à mesure qu'elle naissait sous les doigts inspirés de Mame Diani, épaississait à mes yeux le mystère fascinant de la chair qu'elle allait couvrir. La nuit, ma mère la laissait sous la forme humaine qui servait de modèle à la composition. Elle était toute en envolée de tulle et superbement brodée à l'ancienne. La finesse de la broderie s'épanouissait dans les effets transparents des manches et du corsage très décolleté, tuyauté d'organdi et de satin. Sensuellement drapée aux hanches, elle était assortie dans le dos d'un large nœud papillon, accompagnée d'une fausse traîne amovible. La vraie traîne, cascade de volants en dentelle, pouvait s'étirer à l'infini. La jupe, dansante et joyeusement volantée, à l'ampleur généreuse, semblait déjà receler les secrets d'un éventail magique. La couronne, garnie de tubes d'organ saint entrelacés, était piquée de fleurs d'oranger et de paillettes irisées. Une fois tout le monde couché, je me levais sans bruit, le cœur battant, pour aller célébrer un rite bouleversant dans l'atelier de couture du rez-de-chaussée. À la lueur d'un quinquet que j'allumais, je faisais danser le mannequin. Je lui caressais sa ronde encolure, je lui soufflais à l'oreille les mots d'une tendresse dont je ne soupçonnais pas l'ascendant en moi. J'aidais sa flamme à prendre des forces dans notre foyer, à l'abri du vent, à la veille du fabuleux voyage qu'allait entreprendre ma sœur d'eau bénite. Dans la journée, je séchais mes classes au lycée pour voir Adriana se prêter corps et âme aux retouches de la robe. La notion d'essayage, que je n'avais jamais jugée tant elle m'était familière, s'élevait en ballon avec mes tripes chaque fois que Nana se déshabillait, librement, pour passer sa toilette. Elle pivotait sur les talons, se cabrait, se déhanchait, carrait les épaules avec grâce. L'instant d'après, habillée en mariée, elle se hissait sur une banquette, pliait une jambe, soulevait un bras, arrondissait encore plus sa gorge pigeonnante et sans crier gare, elle m'entraînait dans une valse anglaise. Tout en obéissant aux signes de ma mère, qui avait la bouche hérissée d'épingles, elle n'arrêtait pas de faire une fête des plus humbles mimiques de la vie. Elle se regardait dans la glace, donnait son avis pour finir par froncer le nez et tirer la langue à l'idéal de beauté française qui avait mis le feu à la paille de mes jeunes années.
C'est un texte qui s'appelle « Adriana dans tous mes rêves » qui est signé René Depestre, paru en 1988 chez Gallimard. Juste avant, on entendait une archive de René Depestre lui-même. Pourquoi vous avez choisi ce texte, Babix ?
Eh bien, je l'ai découvert très récemment grâce à mon ami et néanmoins batteur Frédéric Jean, qui a entrepris de faire une création autour de ce texte-là. Et il veut que je dise les textes et je joue aussi du piano dedans. On répétait tout à l'heure cette nouvelle création qui est magnifique. Et donc, ça faisait déjà un moment qu'il me parlait de ce texte. Moi, je connaissais déjà un peu la poésie de Depestre, que m'avait faite d'ailleurs découvrir James Noël.
Merci les amis quand même, hein.
Ouais, quand même, bah toujours merci les amis.
Non,
hein.
C'est vrai, parce que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de livres qui passent comme ça de main d'amis en main d'amis.
Ah, mais toujours. Pratiquement tout, moi, est une histoire de transmission, de troc, de circulation, quoi. Et voilà, donc j'ai lu ce texte pour être prêt pour les répétitions. Donc j'ai découvert ce livre cet été. Et c'est absolument magnifique. Bon, déjà là dans le passage que je lis, il y a une délicatesse, une sensualité qui est quand même absolument folle. Ça fait du bien d'entendre des gens parler comme ça. Et le livre est un Pour moi, moi je l'ai vu comme une sorte de Twin Peaks haïtien, où Adriana devient la Laura Palmer du livre, où, pour le raconter très rapidement, Adriana fait partie d'une famille de riches blancs d'Haïti qui va épouser un haïtien. Et au moment de se marier, sur l'autel, elle tombe raide, morte. Et à ce moment-là, autant le christianisme incarné par les blancs que le vaudou incarné par les haïtiens pratiquement se font face sur comment on va célébrer la mort de cette jeune mariée qui en réalité a été zombifiée. Enfin bon, c'est tout un. Et donc il y a la présence là-dedans de tout ce qui constitue Haïti, cette double culture faite de rituels, de vaudou, de musique incroyable, et en même temps la présence du christianisme très fort. Et voilà, et la langue de Depestre qui est quand même incroyable. Par exemple, ma sœur d'eau bénite. Enfin, moi, je sais pas d'où ça tombe, ça. Donc voilà, c'est magnifique.
On va complètement braquer et changer de territoire pour terminer cette promenade dans votre bibliothèque, Babix, parce que on va aller avec Pierre Bergougnou dans une terre bien française. Vous avez choisi un texte, moi je connaissais pas du tout, qui s'appelle L'Empreinte. Là, je l'ai dans les éditions de Fata Morgana, mais vous l'aviez, vous, dans votre ordinateur ?
Tout à fait. Oui, je l'avais dans mon ordinateur parce que je crois qu'il n'est plus publié, ce texte. Vous avez de la chance, vous avez une version.
Merci les amis.
Merci les amis.
La bibliothèque de Radio France, je ne sais pas. Mystère, il est arrivé sur mon bureau, je ne sais pas d'où il vient.
Et là, encore une fois, merci les amis, parce que c'est une amie, encore une fois, qui est une magnifique écrivaine aussi, qui s'appelle Barbara Mettet-Chastanier, qui m'avait invité, on lui avait confié en fait l'ouverture de saison du théâtre de Brive, qui s'appelle L'Empreinte, le théâtre. Et elle m'avait demandé de venir lire ce texte de Bergougnou. Et Bergougnou à Brive, c'est comme Maradona à Naples.
À peu près, ouais.
Ça rigole pas du tout. Et donc, je suis tombé sur ce texte qui est, mais alors absolument magnifique, et qui finalement est pas si loin de Depestre, de Césaire, de, enfin, il y a cette.
C'est marrant que vous disiez ça, c'est-à-dire.
Bah, en fait, je trouve que les gens qui sont habités par un lieu et par une langue.
Il naît à Brive en 1949, c'est peut-être ça qu'il faut dire. C'est pour ça qu'il s'appelle Maradona.
Oui. Ah oui, complètement. C'est.
L'attachement à une terre, à un territoire.
Voilà. Sans en faire, d'ailleurs, sans. Ça n'a rien d'identitaire là-dedans. C'est vraiment. C'est une espèce de c'est ce qu'on lit dès les premières pages de Bergougnou. Mais du coup, il y a une langue qui sort de cette terre aussi. Et sa langue devient la terre, en fait. Je ne sais pas comment dire.
On lit.
Bah voilà.
Il est paru en 1997 aux éditions du Laquais. Et moi, l'édition que j'ai devant moi, c'est chez Fata Morgana. C'est magnifique. À partir de 2007, on vous écoute.
C'est une belle édition. Je suis de Brive. Si j'ai mis longtemps à concevoir qu'on puisse naître ailleurs, vivre autrement, ce fut par la force des choses. Une officieuse main y avait travaillé dès l'âge permo-carbonifère, tandis que nous étions encore dans les limbes, à attendre. Elle avait disposé, en rond, des collines égales, ou alors taluté le pied de la montagne Limousine, au bord de l'Aquitaine, puis enfoncé le pouce à leur jointure. Peu importe. Le cercle parfait, tracé à notre intention au fond des temps géologiques, était le premier signe de notre élection. Son relèvement, à la circonférence, bornait de tous côtés les regards. La ligne de fête courait à égale distance du centre-ville. On distinguait des prés, des arbres, les brouillards verts du premier printemps, le lait des fumées de l'automne. En quelques endroits bien précis, au pied de la nef de l'église Saint-Martin, vers le milieu de l'avenue de la gare, de la place de la Guierle, on prenait d'assez larges vues sur le ciel, la seule chose à faire un peu défaut, à cause des hauteurs, justement. On découvrait, sans qu'il fût besoin de lever la tête, le velum azuré des beaux jours, les grandes nefs blanches que pousse le vent d'ouest, les émaux de la Bise, les vapeurs versicolores et les fusions que le plus âpre des vents tire dont ne sait quel creuset. Telle fut la première faveur, le giron des collines, la protection qu'elles offraient contre l'inquiétude qui sourd des lieux ouverts, celle dont je fus transi plus tard, à l'approche de Paris, sur les glacis de la Beauce et plus tard encore, dans les sables de Prusse. Il faut, pour prendre la mesure du monde, de vastes horizons.
Il y a un endroit qui est l'équivalent de Brive pour Bergougnoux, pour vous, Babix ?
Un petit peu, oui. Il y a la rue des Envierges à Paris, dont j'ai fait presque un film de ça qui s'appelle Les Saisons Volatiles.
Où on vous voit regarder par la fenêtre, en tout cas on vous imagine regarder par la fenêtre et créer tout un paysage avec des choses qui se passent.
Ouais. J'ai découvert très récemment que ce lieu-là comptait à ce point-là pour moi, parce que c'est un appartement où je n'étais plus allé depuis 5 ans et que d'autres gens y habitaient. Et on m'a rendu les clés récemment et j'ai passé, je pensais rester 2 minutes, et j'ai passé 2 heures dans cet endroit vide et j'ai ressenti tout de suite à quel point j'étais chez moi dans cet endroit. Et je pense que c'est très fort d'aimer un lieu au point qui nous constitue vraiment. Et je trouve que dans la manière dont Bergougnoux parle de Brive, par exemple, cette espèce de peu importe qu'il met, c'est tellement humble l'endroit dont il parle qu'il n'ose même pas lui-même en faire des caisses, parce qu'il sait qu'il parle de Brive, mais que c'est vraiment chez lui. Et la manière dont il construit une langue qui ressemble à l'endroit qu'il décrit me bouleverse. Et ça me fait, dans cette simplicité-là, on parlait de ça tout à l'heure par rapport à Rimbaud, moi en ce moment je suis beaucoup plus sensible à ce genre d'écriture, qui me fait penser à deux des plus beaux vers, je trouve, de la chanson française que Barbara donne dans Septembre, quand elle dit « Jamais la fin d'été n'avait paru si belle, les vignes de l'année auront de beaux raisins ». On ne peut pas faire plus beau que ça, en fait. Et je trouve qu'il y a ça dans le texte de Bergougnoux.
Bah, vous voyez comme la vie et la radio sont bien faites, parce qu'on a commencé par parler du chez-soi, d'une maison construite avec des livres et avec du son, et on se quitte sur un autre chez-soi. Merci beaucoup, Babix,
d'avoir
ouvert votre bibliothèque. On se quitte avec la voix d'Abel Lincoln.
Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your rope. Keep a moving with that plow. Drive a man will show you how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man'll start to swing. Ain't but 2 things on my mind. Drive a man in quitting time.
Au son, c'était Marie-Claire Oumabadi à la réalisation. Vivien Demeyer, vous pouvez retrouver toutes les références de textes évoqués par Babix sur franceculture.fr à la page du Book Club. C'est aussi un endroit où vous pouvez écouter ou réécouter toute notre série de portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. Thank you.
Drive a man and quit in time.